Il est 11h30, Infomag, Jean-François Baudin.
Un drame à Waco cette nuit. Le grand chef Boarat est mort, tué alors qu'il tentait de s'interposer dans une dispute conjugale. La Fédération des entreprises du BTP, très alarmiste, elle demande à l'État de lancer rapidement des chantiers sous peine de voir la moitié des entreprises disparaître dans les prochains mois. De très fortes pluies avec des cumuls records ont touché Yengen depuis le début de la semaine. Les écoles restent fermées jusqu'à demain. Le cabinet de sécurité du gouvernement israélien donne son accord. Un cessez-le-feu est entré en vigueur ce matin au sud Liban. En métropole, Michel Barnier confirme qu'il n'hésitera pas à utiliser l'article 49.3 si besoin pour faire adopter le budget, mais il met en garde sur les risques d'un renversement du gouvernement. Et puis du football dans la page sport et le PSG toujours en galère en Ligue des Champions. Les Parisiens ont été battus 1-0 au Bayern. Brest s'est incliné 3-0 à Barcelone. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal que nous vous ouvrons donc par ce drame avec la mort du grand chef William Boarat du district de Koumak. Le procureur de la République a annoncé ce matin en effet l'ouverture d'une enquête en flagrance pour homicide volontaire. Le drame a eu lieu cette nuit à la tribu de Waco dans un contexte d'alcoolisation. Un homme de 24 ans s'en est pris à sa concubine sur laquelle il portait des coups. Le grand chef, âgé de 66 ans, a tenté de s'interposer pour protéger la victime, qui est sa petite fille de cœur, indique le procureur dans un communiqué. L'agresseur violent s'est alors emparé d'un poteau en bois et il a frappé le grand chef sur la tête. Arrivé sur place à 1h du matin, les secours ont trouvé le grand chef inconscient et son décès a été constaté à 4h40 par le médecin du dispensaire. L'auteur des coups mortels a été interpellé, il est en garde à vue. L'enquête est donc en cours et le mis en cause et les témoins sont actuellement entendus par les enquêteurs. Justice toujours, et aujourd'hui et demain, les jurés des assises se penchent sur une affaire de meurtre en appel. L'affaire devait être initialement jugée ce lundi, mais faute de jurés suffisants, elle a donc été reportée à aujourd'hui. L'accusé a été condamné l'an dernier à 20 ans de réclusion criminelle pour avoir tué son ami d'enfance à la tribu de Newa à Wailou, Léana Colombo.
Oui, nous sommes le matin du 4 juillet 2021. La victime, Dylan, se rend sur le terrain de sa future maison dans la tribu avec sa compagne et sa fille de 2 ans. Il croise alors Zachary, un ami d'enfance avec qui il n'avait jamais eu de problème auparavant, selon les habitants de Wailou. Seulement voilà, la semaine avant ce jour fatidique, Zachary aurait tiré dans le pare-brise de la voiture de la victime et mis le feu à des broussailles près de leur habitation. Dylan se rapproche donc de Zachary, qui est équipé d'un fusil de chasse, pour lui demander pourquoi avoir agi ainsi. Des mots sont échangés, mais uniquement connus des deux hommes, la compagne et la fille de la victime étant parties en direction de la maison de la grand-mère de Dylan. Une minute après avoir atteint le domicile, sa compagne entend un coup de feu et voit la victime venir vers elle en se tenant le dos et s'effondrer sur le sol. Elle tente de le ranimer et appelle les secours, mais il est trop tard. La gendarmerie et les médecins arrivés sur place ne peuvent que constater le décès de l'homme. Zachary, qui s'est enfui après les coups de feu, est ramené aux gendarmes par les membres de la tribu. S'ensuit alors un premier procès l'année suivante, ou l'année où l'accusé a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle, vous l'avez dit. Aujourd'hui, lors de ce nouveau procès en appel, l'accusé, désormais âgé de 24 ans, n'a pas souhaité s'exprimer après lecture du rapport. Un rapport qui indique que selon les médecins, le mis en cause est un homme aimant la chasse et la pêche, buveur occasionnel et fumeur depuis ses 11 ans, ne présentant pas de troubles psychologiques, mais toutefois une dangerosité sociale et criminelle. Je veux essayer de comprendre pourquoi il a fait ça alors que nous n'avions aucun problème avec lui. J'ai besoin de comprendre pour continuer à avancer, pour moi, mais surtout pour ma fille qui grandit, a déclaré lors de son audition la compagne de la victime avec émotion. Parmi les autres témoins auditionnés, le premier gendarme arrivé sur les lieux. D'autres témoins doivent encore être entendus aujourd'hui et demain, jour de la clôture de ce nouveau procès. Devant la cour d'assises, Léana Colombo, RRB.
Et puis justice toujours, et le docteur Olivier Pérez sera jugé une nouvelle fois, mais cette fois-ci à Lyon. Il doit être jugé pour la troisième fois pour le meurtre d'Éric Martinez, qu'il a tué de 3 coups de fusil sur le golfe de Tina en septembre 2018. Le docteur Pérez avait été condamné à 20 ans en première instance, puis 15 ans de réclusion criminelle en appel. Mais la Cour de cassation avait annulé l'arrêt de la Cour d'assises d'appel au motif qu'elle n'avait pas motivé le rejet d'une demande d'expertise médicale. La haute juridiction avait donc ordonné un nouveau procès et le parquet général de Nouméa avait demandé à cette haute juridiction de dépayser le dossier, car un grand nombre de magistrats a déjà travaillé sur ce dossier. C'est donc ce qu'elle a fait dernièrement en saisissant la Cour d'assises du Rhône.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure de votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu avec notre question du jour. Trouvez-vous trop sévère la peine de 2 ans d'inéligibilité avec exécution provisoire prononcée à l'encontre de Jacques Lallier ? Si vous trouvez qu'elle est trop sévère, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Et puis la réponse à notre question d'hier, 98% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS pensent que les conditions ne seront pas réunies pour la levée du couvre-feu et de toutes les restrictions administratives au moment des fêtes de fin d'année. Ils ne sont que 2% à être d'un avis contraire. La FCBTP lance un cri d'alarme. Les carnets de commandes des entreprises sont vides alors que les besoins sont importants. La Fédération calédonienne du BTP interpelle donc l'État, Nicolas Legrand.
Oui, pour la FCBTP, il y a trop d'annonces et pas assez d'actions. Le constat est alarmant, les entreprises sont en difficulté et malgré les aides annoncées, aucun chantier de reconstruction n'est lancé. Or, pour Benoît Meunier, le président de la FCBTP, seul l'État peut sauver ce secteur d'activité.
On a beaucoup d'annonces, notamment de l'État, qui injecte des milliards dans l'économie. Mais nous, malheureusement, dans le secteur du BTP, on n'en a pas vu la couleur. Il n'y a aucun chantier qui n'a été lancé. Le secteur privé ne va pas investir pour le moment tant qu'il n'y a pas de la confiance dans la Nouvelle-Calédonie. Et donc il est important que ce soit le secteur public qui prenne le relais. Le seul qui peut sauver un peu le tissu économique en Calédonie du secteur du BTP, c'est l'État. C'est vraiment un secteur endogène et donc il suffit d'avoir une volonté politique et une volonté de sauver ce secteur qui représente quand même 10% du PIB et 10% d'activité en Calédonie. 10% des salariés travaillent dans le secteur du BTP.
La FCBTP qui demande du travail immédiatement avec la reconstruction des structures détruites. Je rappelle que l'État s'est engagé à en prendre en charge 100% pour les écoles et 70% pour les autres bâtiments publics, mais aussi en finalisant le contrat de développement en cours et en lançant rapidement la nouvelle génération 2024-2027. Pour Benoît Meunier, il est important d'offrir de la visibilité aux entreprises.
On demande donc un financement important pour que les collectivités puissent sortir des projets qu'il y a dans les cartons ou sortir des nouveaux projets comme la construction des bâtiments publics, des écoles ou des bâtiments administratifs qui ont été détruits pendant les émeutes. Et deuxièmement, un calendrier clair, puisqu'on n'a même pas la liste encore des écoles qui vont être construites ou des bâtiments. Et un calendrier, bien sûr, pour savoir comment est-ce qu'on doit dimensionner nos entreprises actuellement, puisque nos carnets de commandes s'arrêtent à janvier ou février 2025. Et donc, quand est-ce que les activités vont démarrer et quelle va être l'ampleur de ces activités ?
Un besoin urgent car les sociétés du BTP souffrent. 43% des entreprises ont perdu plus de 50% d'activité depuis le mois de mai. La majorité des sociétés a moins de 3 mois de trésorerie disponible. Des entreprises donc en grande souffrance, voire même
à l'agonie parce que donc elles n'ont pas d'activité. On subit déjà la crise depuis maintenant plus de 3 ans. Et en plus, vient se rajouter à ça, le peu de chantiers qui ont continué, on n'est pas payé. Les collectivités n'ont pas les moyens de régler leurs factures. Donc ça fait des fois 6 mois que les factures restent impayées pour des travaux qui ont déjà été réalisés. Bien sûr, les entreprises sont menacées. 50% des entreprises du BTP envisagent leur fermeture de leur société en 2025.
50% des sociétés qui fermeraient, ça représente 3000 salariés au chômage.
Il est 11h39. Dans un instant, on se retrouve pour le reste de l'actualité en Calédonie.
Toute l'info en 3 lettres, RRB.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixon à Magenta, à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixon, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Votre Auchan Kéféri fête ses 1 an. C'est notre anniversaire, mais c'est vous qu'on gâte. Du 25 au 30 novembre, on double votre cagnotte fidélité, on vous offre des bons d'achat et la possibilité de remporter 2 caddies surprises par jour d'une valeur d'environ 60 000 francs. Rendez-vous en magasin.
RRB, 11h, 13h, Infomag, Jean-François Bodin.
La suite de l'actualité en Calédonie avec cet épisode pluvieux très intense qui a touché le nord et la côte est ces 3 derniers jours et notamment la commune de Yengen. Il n'y a pas de dégâts majeurs, mais ce sont des relevés pluviométriques particulièrement significatifs qui ont été réalisés par les services de Météo France Nouvelle-Calédonie. Michael Juneski.
Les experts parlent de l'équivalent d'un mois à deux mois et demi de pluie tombée par endroit par rapport au cumul habituellement enregistré pour novembre, et ce sur les seules périodes de lundi après-midi et dans la nuit de mardi à ce matin, au plus fort des intempéries. 257 mm à Point-d'Imier, 392 mm à Ponérioin, 142 mm à Yengen. Des criques et des cours d'eau ont débordé, provoquant par endroits la fermeture de la circulation. À Ponérioin, une famille habitant au bord de mer a dû être relogée pour ce début de semaine par la mairie, par mesure de sécurité en raison de la montée des eaux. À Yengen, le système de captage d'eau potable a également été temporairement bloqué, tandis que de nombreux axes routiers secondaires n'étaient plus praticables. Aujourd'hui, la situation revient progressivement à la normale. Les équipes municipales s'affairent encore à déterminer les conséquences de ces fortes précipitations. Plusieurs établissements scolaires, par ailleurs, sont restés fermés à Yengen. Ils ne réouvriront qu'à compter de ce jeudi. Ces fortes pluies ont également touché la côte ouest, qui restait jusqu'alors dans une situation de forte sécheresse. À Kaalagomen, Vaux, Koné, environ 50 mm, c'est l'équivalent d'un mois de pluie habituellement pour la période de novembre. À Poya, 118 mm, l'équivalent de deux mois d'habitude pour cette période. Ou encore à Koumak, 130 mm de pluie ces derniers jours. C'est ce qui tombe d'habitude sur les relevés pluviométriques de trois mois et demi durant les derniers mois de l'année.
La pluie qui alterne évidemment avec le soleil, l'été est là, et attention au soleil qui peut provoquer de graves maladies. Le comité de Nouvelle-Calédonie de Ligue contre le cancer propose d'ailleurs des journées de prévention du mélanome, Léo Fichou.
Et oui, des journées afin de sensibiliser au risque de l'exposition au soleil. Un stand de prévention dans le hall d'accueil du MedCity est mis en place jusqu'à 17h. Les membres du comité calédonien de lutte contre le cancer sont là pour répondre à vos questions. Des dépistages gratuits sont également proposés par des professionnels de santé spécialistes de la dermatoscopie. Mylène a sauté sur l'occasion pour se faire dépister ce matin.
Actuellement sur le territoire, c'est de plus en plus difficile pour avoir des rendez-vous avec des spécialistes, notamment, il n'y a pas que les dermatos, mais notamment les dermatos. Trop d'attentes, donc là c'était l'occasion de faire un check. Ça fait un moment que je n'en ai pas vu de dermatos, donc on démarre l'été, c'est avec le soleil, donc vérifier les grains de beauté. Et puis j'ai un petit grain sur le devant, ici sur la poitrine, que je voulais vérifier.
Avant de se faire dépister, Mylène a pu échanger avec Élodie, secrétaire et gestionnaire du comité de Nouvelle-Calédonie de la Ligue contre le cancer.
Après, par la suite, voir un dermato s'il y a de la place, même si c'est compliqué.
Oui, c'est ça.
Donc je monte au quatrième étage.
La
trace,
hein. C'est ça. Voilà, madame.
Merci.
Moi, je prends les informations des personnes qui veulent faire le dépistage en vue de proposer un statistique. Comme disait la dame, c'est compliqué d'avoir un rendez-vous avec le dermato, donc c'est pour ça qu'on propose ce genre d'action avec un dépistage gratuit. Ici en Calédonie, c'est vrai qu'on a une forte exposition au soleil toute l'année. Donc ce qu'on propose aux gens, c'est éviter le soleil entre 9h et 16h, se protéger via de la crème solaire, via des lunettes de soleil, un chapeau, des vêtements qui couvrent la peau, et surtout protéger impérativement les enfants.
Les dépistages gratuits sont proposés jusqu'à 17h, donc au MedCity. Vendredi, le comité Nouvelle-Calédonie de la Ligue contre le cancer sera cette fois-ci dans le hall du Medipol de 10h à 15h. Les tests de dépistage seront disponibles à partir de 13h.
Une soirée riche en émotions hier pour les élèves du Master Management et Administration des entreprises de l'IAE à l'UNC. 9 d'entre eux se sont vus remettre leur diplôme qui marque la fin de leur cursus de 2 ans. Une fierté car c'est un engagement pour une bonne partie d'entre eux qui a passé ce master tout en poursuivant une activité professionnelle.
C'est un mode d'entreprendre qui est complètement différent de ce qu'on a pu connaître jusque-là, qui est complémentaire. L'objectif, ce n'est pas d'opposer des modes d'entreprendre.
On va entendre Naya Wateou dans un instant puisqu'elle parle du Nouméa Women's Forum. On retrouve tout de suite les étudiants qui ont reçu leur diplôme du Master Management et Administration des entreprises hier soir.
Un gros soulagement et une grosse fierté. C'est du boulot de reprendre les études lorsqu'on est déjà dans la vie active. C'est du travail le soir et les week-ends. C'est très intense, mais du coup, là, ce soir, c'est un petit peu une délivrance et l'accomplissement des 2 années d'études, donc très fier.
Ces 2 années, elles étaient riches en émotions. C'était beaucoup de travail, mais on s'est aussi beaucoup soutenu entre les collègues de promo, et je suis fier d'avoir eu le diplôme.
Je pense que je réalise pas forcément, même si on a la toge et une belle cérémonie, parce que en fin de compte, c'est surtout les compétences qu'on a acquises tout le long. J'ai acquis, j'ai appris. Beaucoup de questionnements personnels, et puis au fond, je ressors grandi. Et dans mon cas, j'ai envie de mettre en application ce que j'ai appris pour prouver que la jeunesse a vraiment une force positive à apporter. Moi, j'y crois énormément, en tout cas, au potentiel de la Calédonie.
Et mercredi prochain, ce sont les étudiants de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation qui recevront leur diplôme. Parlons donc maintenant du Nouméa Women's Forum qui a débuté hier, qui fait une pause aujourd'hui, mais qui se poursuit demain et vendredi. Un rendez-vous annuel depuis 2020 pour mettre en avant les femmes qui entreprennent. Cette année, l'édition est marquée par la crise que traverse le territoire après les violences insurrectionnelles du 13 mai. La province sud met en avant l'économie sociale et solidaire qui peut être un modèle économique intéressant dans ce contexte. Naya Wateu, élue à la province sud et organisatrice de l'événement, était ce matin notre invitée à 7h30.
C'est un mode d'entreprendre qui est complètement différent de ce qu'on a pu connaître jusque-là, qui est complémentaire. L'objectif, ce n'est pas d'opposer des modes d'entreprendre. Ça repose sur des piliers qui sont très simples. C'est une gouvernance partagée. C'est cette lucrativité limitée. Alors, ce n'est pas un gros mot. Tous les bénéfices qu'on va avoir vont être réinjectés dans la structure, vont faire l'objet d'améliorations des conditions de vie des salariés, d'améliorations du quotidien. On est vraiment dans cette philosophie-là, mais c'est important d'avoir cette lucrativité qui existe malgré tout parce que c'est ce qui fait aussi la pérennité du dispositif. Et puis, c'est ce principe d'utilité sociale, d'avoir une meilleure intégration des personnes en situation de fragilité, sur une meilleure cohésion des territoires. C'était une économie qui existait, en tout cas une manière d'entreprendre qui existait déjà en Nouvelle-Calédonie avant le 13 mai et qui aujourd'hui, et au regard des premiers ateliers qu'on a pu avoir hier, prend tout son sens.
Et demain, le Nouméa Women's Forum se tient à la FOL. Vendredi, ce sera au CAPS, baie de la Moselle. L'événement est ouvert au grand public, mais il est nécessaire de s'inscrire pour participer aux ateliers. 11h47, une nouvelle pause avant de voir l'actualité en métropole et à l'étranger, notamment ce cessez-le-feu au sud Liban, entré en vigueur ce matin entre Israël et le Hezbollah.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Attention, important. La ville de Nouméa a dû procéder à un toilettage des listes électorales face à de nombreuses adresses de domicile incorrectes. Certains d'entre vous ont pu être radiés. Vous devez vérifier votre inscription sur le site www.electeur-nc.fr. Si tel était le cas, vous devez procéder à votre réinscription, soit à l'hôtel de ville, soit par Internet sur le site www.nouméa.nc, soit par courriel à l'adresse suivante vie.citoyenne@ville-nouméa.nc. Important, vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour vous réinscrire. N'attendez pas le dernier moment. Pour celles et ceux qui ne sont pas inscrits, vous devez aussi le faire avant le 31 décembre 2024. Pour tout renseignement, appelez la mairie de Nouméa au 27 31 15.
Des problèmes de termites, de bois, de sol ou d'insectes rampants? Pensez Flic Pest Control. Depuis 40 ans présent sur le territoire, Flic Pest Control, c'est le numéro 1 de la désinsectisation et de la lutte anti-termites. Traitement par pulvérisation, perçage et injection, épandage ou pose de piège. Flic Pest Control, 75 rue Arnold Delay à Wemo.
Un numéro 28 94 20.
Toute l'info en trois lettres. RRB.
L'actualité dans le monde, c'est la suite d'Infomag. On retrouve Jean-François Baudin.
Avec ce cessez-le-feu au sud Liban qui est effectif depuis ce matin pour nous, cessez-le-feu qui intervient entre Israël et le Hezbollah après plusieurs jours de négociations sous l'égide des États-Unis et de la France. On savait que ce cessez-le-feu était sur le point d'aboutir ces derniers jours. Il manquait encore l'accord du cabinet de sécurité du gouvernement israélien. C'est désormais chose faite. Frédéric Simon pour Europe 1.
C'est fait, le cabinet sécuritaire du gouvernement israélien a approuvé un accord instaurant un cessez-le-feu au Liban. Il entrera en vigueur demain matin à 3h, heure de Paris. Seul le ministre d'extrême droite, Itamar Ben-Gvir, a voté contre. Peu de temps après le vote, Joe Biden s'est exprimé en se félicitant du résultat et en évoquant un cessez-le-feu permanent. Auparavant, au début de soirée, dans une allocution préenregistrée et retransmise par les journaux télévisés, Benjamin Netanyahu avait tenté d'expliquer à ses compatriotes les raisons de l'instauration de la trêve. Un exercice utile pour le Premier ministre israélien, de large part de l'opinion publique israélienne, surtout dans son propre électorat, se montre sceptique, voire réticente sur les modalités de l'accord, dont certaines restent floues. De fait, Netanyahu a insisté à plusieurs reprises sur le droit que se réserve Israël d'intervenir militairement en cas de violation des termes de l'accord par le Hezbollah. La durée du cessez-le-feu dépendra de ce qui se passera au Liban, a dit Netanyahu, avant d'énumérer les trois raisons qui, selon lui, rendaient nécessaire l'interruption des opérations militaires au Liban, l'isolement du Hamas privé désormais de la solidarité de la milice libanaise, la réorganisation de l'armée israélienne et aussi, point crucial pour le Premier ministre israélien, la possibilité pour Israël de se confronter à la menace constituée par le programme nucléaire de l'Iran. Tel Aviv, Frédéric Simon, Europe 1.
En métropole, Michel Barnier reste sous la menace des députés de la France Insoumise qui déposeront une motion de censure si le Premier ministre a recours à l'article 49.3 pour faire adopter sans vote le budget 2025. Motion de censure qui pourrait être votée aussi par le groupe Rassemblement National. Sur le plateau du 20h de TF1, Michel Barnier a confirmé qu'il utiliserait cette arme constitutionnelle qu'est le 49.3 si besoin. Mais dans le même temps, il a mis en garde sur les risques d'un renversement du gouvernement.
Moi, je sais depuis le premier jour, depuis le 5 septembre, qu'il peut y avoir une censure. Et que s'il y a une alliance dans les votes, je tombe, le gouvernement s'arrête. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus de budget, il faudra reprendre une discussion, il y aura des mesures d'urgence, il y aura une tempête probablement assez grave et des turbulences graves sur les marchés financiers où nous empruntons déjà très haut. Nos taux d'intérêt, les taux d'intérêt que nous sommes obligés de respecter pour financer notre dette avec des investisseurs chinois ou américains, ils sont actuellement presque au niveau de la Grèce.
Et dans cette interview sur TF1, Michel Barnier a toutefois entrouvert la porte au Rassemblement National puisqu'il n'exclut pas d'aller plus loin sur la baisse des prix de l'électricité. Alors que le parti de Marine Le Pen réclame l'abandon des hausses de taxes, Michel Barnier a également annoncé un chantier de réflexion sur la question de la proportionnalité pour les élections législatives, qui est une demande du Rassemblement National, chantier qui a été confié à Pascal Perrineau. L'Assemblée nationale apporte son soutien aux agriculteurs. Les députés à la majorité soutiennent la France dans sa volonté de ne pas signer en l'état l'accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur. Un vote symbolique. Notez qu'à son tour, la Pologne a annoncé qu'elle ne signerait pas cet accord en l'état. La France cherche donc toujours des pays opposés à cet accord pour dégager une minorité de blocage sur ce texte. Malgré tout, les agriculteurs restent mobilisés. Et après la coordination rurale qui a mené plusieurs actions, notamment à Strasbourg, c'est la FNSEA et les jeunes agriculteurs qui prennent le relais. Dans le sud-ouest, ils se sont mis en route vers la préfecture de Montauban pour une action symbolique, explique cet agriculteur manifestant.
On déverse. Ce sont des sacs d'engrais vides, bien sûr, des déchets, des emballages, des tôles. On va cibler les symboles de l'État, impôts, préfecture aussi, parce que ce Mercosur, on n'en veut pas, parce que tout ce qu'on a demandé au mois de février dernier, on n'en a que quelques bribes. On le fait tard pour ne pas embêter les gens qui travaillent. Maintenant, si on n'est pas suivi, le mouvement va se durcir. Et là, à ce moment-là, on embêtera la population par défaut.
La FNSEA et les jeunes agriculteurs ont annoncé qu'ils allaient mener plusieurs actions dans les trois jours qui viennent. La suite du procès de l'assassinat de Samuel Paty avec un témoignage qui n'est pas passé inaperçu, celui de la jeune fille à l'origine du drame. C'est elle qui avait dit à ses parents qu'elle avait été exclue d'un cours sur les caricatures, alors qu'en fait elle avait séché les cours ce jour-là. La machine s'était ensuite malheureusement emballée jusqu'à aboutir à la mort tragique du professeur d'histoire à Conflans-Sainte-Honorine. La jeune fille, déjà condamnée par la cour d'assises des mineurs, s'est excusée devant les parents de Samuel Paty. Elle s'est dite dépassée par son mensonge, une attitude qui laisse Maître Virginie Leroy, l'avocate des parents de Samuel Paty, dubitative.
Il y a un an, elle indiquait que son père était responsable, qu'elle avait été en quelque sorte manipulée. Et aujourd'hui, elle vient vous dire qu'elle est responsable de tout. Et elle présente même des excuses vis-à-vis des gens qui sont dans le box. Je pense qu'il ne faut pas se moquer du monde et que ce n'est pas acceptable.
Et le procès de l'assassinat de Samuel Paty se poursuit. Et puis toujours au chapitre des faits divers à Saint-Étienne, un homme armé de deux couteaux s'en est pris à des passants en pleine rue à Saint-Étienne. Donc, il a été abattu par deux agents de la police municipale alors qu'il retenait une femme âgée un couteau sous la gorge. Anne Hidalgo ne se représentera pas à la mairie de Paris. Longtemps première adjointe de Bertrand Delanoë, elle a été élue maire de Paris en 2014, mais ne briguera donc pas de nouveau mandat. Elle l'annonce dans le journal Le Monde. Son passage à la mairie de Paris restera marqué par son combat contre la présence de voitures dans la capitale. Alexis de la Fléchère pour Europe 1.
Après 12 ans au pouvoir, Anne Hidalgo va laisser à son successeur une dette de près de 9 milliards d'euros et aux Parisiens une ville embouteillée plus que jamais avec une impossibilité de se garer, dénonce ce restaurateur du 15e arrondissement.
Elle a fait plein de choses pour que les gens ne prennent plus leur voiture, et c'est le cas d'ailleurs, ce qui nous pénalise nous en tant que commerçants puisqu'il y a beaucoup moins de gens qui sortent le soir parce qu'ils ne peuvent pas se garer. Les gens sont agressifs, enfin ça devient du n'importe quoi. Donc qu'elle ne se représente pas, bah oui, je suis bien content. Malheureusement, je pense que le mal est fait déjà.
Pierre, lui, habite le 16e et ne comprend pas cette stratégie de chasse aux voitures alors qu'aucune solution n'est proposée en contrepartie aux automobilistes.
On nous dit oui, il faut prendre des transports en commun, les trains. Il n'y a pas de parking extérieur pour laisser sa voiture si vous arrivez aux portes de Paris ou quoi que ce soit. C'est n'importe quoi, c'est mettre la charrue avant les bœufs.
Anne Hidalgo qui ne manquera pas non plus à ce chauffeur de taxi.
L'a regretté au niveau du stationnement et de circulation sur le périphérique à 50 km/h. Non, je ne la regretterai pas. Après, qui va prendre sa place, ça, j'en ai aucune idée. Non.
Anne Hidalgo, elle, à la sienne. La maire de Paris apporte son soutien pour 2026 au sénateur du Parti Socialiste et ancien maire du 10e arrondissement de Paris, Rémi Féraud.
Alexis de la Flécheur pour Europe 1 à 11h55, la dernière pause de ce journal avant de voir dans un instant toute l'actualité sportive.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
1 million. 1 million de francs en bon d'achat à gagner sur RRB. Pour jouer, envoyez maintenant RRB au 40-20.
Tirage au sort le 30 novembre parmi tous les SMS.
1 million en bon d'achat à dépenser où vous voulez, quand vous voulez. Sans oublier les 100 000 francs de bon d'achat qui continuent de tomber chaque semaine. Alors n'attendez plus, RRB au 40-20.
371 francs par SMS. Règlement disponible à l'accueil de la radio.
L'enquête publique du plan d'urbanisme directeur de Païta est ouverte. Jusqu'au 3 janvier, consultez le projet en mairie, en ligne ou auprès de la commissaire enquêtrice et faites entendre votre avis. Rendez-vous sur pud-païta.nc pour plus d'infos.
RRB, première radio d'information.
La suite d'Infomag avec le sport.
Avec Décathlon, suivez l'actualité sportive du jour et les résultats locaux, nationaux et internationaux. Décathlon, partenaire de tous les sportifs calédoniens depuis 10 ans. Décathlon, à fond la forme.
Le sport avec du football à la une et une mauvaise journée pour les clubs français engagés en Ligue des Champions, Léo Fichou.
Et le Paris Saint-Germain continue sa très mauvaise saison sur la scène européenne. Les joueurs de la capitale se sont inclinés 1-0 sur la pelouse du Bayern de Munich. Après 5 journées, ils n'ont que 4 petits points et sont pour l'instant éliminés de la compétition. Brest, de son côté, s'est aussi incliné, mais c'est la première défaite de son histoire en Ligue des Champions. Les Bretons n'ont rien pu faire face au FC Barcelone, défaite 3-0, mais ça ne change rien au très beau parcours des Brestois qui sont à une petite victoire de la qualification pour le prochain tour. On espère que demain matin, Lille et Monaco feront mieux que Paris et Brest. À 7h, heure de Nouméa, Lille sera sur la pelouse de Bologne en Italie et Monaco recevra le Benfica Lisbonne.
Et puis un mot de voile, Charlie Dalin est toujours en tête du Vendée Globe.
Au dernier pointage, le trio de tête n'a pas changé. Charlie Dalin sur Massif Santé Prévoyance devance toujours de 38 000 nautiques Thomas Ruyant à bord de Vulnérable et Johan Richomme sur Paprec Arkea de 69 000 nautiques. Un groupe de 9 skippers a pris le large sur le reste de la flotte et traverse actuellement la Atlantique. Le groupe se dirige vers le Cap de Bonne-Espérance à la pointe sud de l'Afrique.
Et puis le sport sur le territoire, on revient au football puisque l'AS Magenta a remporté hier soir le trophée du Grand Nouméa.
Après 15 journées, on disputait hier soir les deux derniers matchs de ce tournoi. Le suspense était encore total. Deux équipes pouvaient remporter le tournoi organisé par le club du Dumbé AFC. L'AS Magenta d'un côté et Horizon Passau de l'autre. Dans le premier match de la soirée, Horizon s'est imposé 10-1 sur le CO Melec et revenait donc à égalité de points en tête du classement avec Magenta. Mais dans le deuxième match, les joueurs de Pierre Wajoka n'ont pas tremblé et ont battu le Mont d'Or 3-1. Une victoire qui permet donc à l'ASM de remplir un peu plus son armoire à trophées.
Et bravo à vous, Léo Fichou, qui faites partie de cette équipe de l'AS Magenta. RRB, c'est formidable et c'est aussi une petite fierté pour nous. Voilà, c'est la fin de ce journal. Il est 11h58.